Séance publique du Congrès de la Nouvelle-Calédonie avec plusieurs textes à l'ordre du jour, dont la fameuse DM6 qui doit permettre d'obtenir les financements de l'État cruciaux pour la fin de l'année. On en parle dès le début de ce journal. Des cris de joie à l'heure de l'affichage des résultats du bac. Une première session qui affiche un taux de réussite de 80,9%. Les salariés de la SLN à Thiau seront au chômage total à partir de demain. Les sites de la société Le Nickel ont été mis en sommeil depuis le 9 octobre après avoir subi de nombreuses exactions. Un Noël pour les enfants à l'Institut spécialisé autisme du Mont d'Or. Les familles étaient aux côtés des équipes de LISA pour offrir de belles émotions aux plus jeunes. Notre opération au cœur de Noël se poursuit sur RRB. Une montagne de cadeaux s'élève au cœur de la radio, des dons qui seront distribués aux enfants les plus démunis. Du football, Tigasport connaît ses adversaires pour la Haute Ligue. Le club désigné représentant calédonien en Ligue des Champions de Océanie 2025 retrouvera sur sa route les Néo-Zélandais d'Auckland. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Soir pour tous, savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. L'actualité institutionnelle est à la une avec la décision modificative numéro 6 du budget principal propre de la Nouvelle-Calédonie au menu des élus du Congrès qui sont réunis depuis cet après-midi en séance publique. Ils examinent la fameuse DM6 qui intègre dans le budget de la Nouvelle-Calédonie les 27 milliards de francs qui ont été débloqués dans le projet de loi de fin de gestion adopté in extremis par l'Assemblée nationale juste avant la chute du gouvernement Barnier. Les débats sont encore en cours. On retrouve en direct de l'hémicycle du boulevard Vauban Lionel Sabot pour RRB.
Oui, c'est une séance pour le moins surprenante qui se déroule en ce moment même, boulevard Vauban. Les élus du Congrès sont retrouvés à 14h et comme le veut une certaine tradition, c'est Louis Mapou, le président du gouvernement, qui a pris la parole pour ouvrir cette séance ô combien importante, vous l'avez rappelé. Louis Mapou a posé en fait le cadre des discussions de l'après-midi, rappelant que les enjeux de ces discussions étaient connus de tous. La décision modificative numéro 6 du budget principal propre de la Nouvelle-Calédonie doit permettre aux différentes collectivités de remplir leurs obligations jusqu'à la fin de l'année 2024, a souligné Louis Mapou. À l'issue de cette prise de parole, on s'attendait à ce que les débats débutent, mais Virginie Rufnac, pour le rassemblement, a demandé alors une suspension de séance. Suspension accordée et qui aura duré près d'une heure. À la reprise de la séance, on s'attendait encore à ce que le texte concernant cette fameuse DM6 soit examiné. Il n'en a rien été puisque les élus ont en fait débuté par l'examen de plusieurs autres délibérations à l'ordre du jour de cette séance. Des délibérations votées à l'unanimité et sans aucun débat qui concerne les décisions modificatives numéro 1 du budget annexe de reversement et du budget annexe de répartition. Les élus ont également adopté une délibération relative à la TGC. C'est finalement vers 16h15 seulement que les élus ont débuté l'examen du texte phare de cette séance qui concerne donc la DM6 qui, rappelons-le, intègre dans le budget de la Nouvelle-Calédonie les 27 milliards qui ont été débloqués, vous le rappeliez, dans le projet de loi de fin de gestion adopté par l'Assemblée nationale quelques heures seulement avant la chute du gouvernement Barnier. Cette somme doit permettre, rappelons-le, au territoire de boucler l'année en garantissant le financement des provinces et des communes, le fonctionnement du RUAM, la pérennité du régime d'assurance chômage et la stabilité des NERCAL. La somme a été votée par l'Assemblée nationale, mais il faut encore que les élus du Congrès l'adoptent, ce qui n'est pas encore fait, puisque les élus s'expriment depuis maintenant un peu plus d'1h30 sur le sujet. Alors si les élus semble prêt à voter cette DM6. C'est sur la méthode que les débats portent essentiellement dans les différentes prises de parole. Philippe Gomez, pour Calédonie Ensemble, reproche au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'empiéter sur les prérogatives du Congrès en allant négocier directement avec l'État. Cette DM6, ce n'est pas pétrole contre nourriture, mais réforme contre financement, a déclaré Philippe Gomez. Dans son intervention, Virginie Rufnac a déclaré qu'il n'y avait pas de place pour la désunion et que les élus devaient se serrer les coudes pour être plus forts face à l'État. C'est ensuite Sonia Baquès, la présidente de la province sud, qui a pris la parole. Cette décision modificative numéro 6 est une question de vie ou de mort pour les collectivités, a-t-elle déclaré, rappelant que si cette délibération n'était pas adoptée, 30 collectivités calédoniennes au moins seront dans l'obligation d'être placées sous tutelle de l'État. Côté indépendantiste, Jean-Pierre Jaïoui, pour le groupe UNI, a de son côté affirmé que si le gouvernement traitait directement avec l'État, c'était bien parce qu'il y avait urgence et que personne n'avait prévu le 13 mai dernier. Les débats sont loin d'être terminés ici, boulevard Vauban, puisqu'une nouvelle suspension de séance est en cours. À la reprise d'ici une dizaine de minutes, les élus étudieront enfin les articles de ce texte. Les débats qui devraient être encore longs, très long, puisque près d'une dizaine d'amendements ont été déposés. Au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Lionel Sabot, Radio Rythme Bleu.
Et le compte-rendu complet de cette séance du Congrès à suivre dans nos prochaines éditions. Et notez que demain, l'examen du budget primitif provincial sera au menu de la séance publique pour laquelle les élus de la province sud sont convoqués à 9h. Ce sera le texte principal d'une séance qui sera dense, puisqu'en plus de l'examen du budget, des élus doivent aussi examiner un dispositif d'aide à l'aménagement pour sécuriser les locaux des entreprises et favoriser leur accessibilité, ou encore une délibération sur des mesures exceptionnelles en matière d'urbanisme relatives aux règles de reconstruction applicables en province sud. Le premier vol reliant la Nouvelle-Calédonie et la métropole a décollé la nuit dernière, un peu plus après environ 2h du matin de l'aéroport de la Tontouta. Ce vol SB500 s'est posé à 11h36 pour nous sur l'aéroport international de Bangkok pour une escale technique de 2h après 14h45 de vol. Il a ensuite repris la direction de Paris. Il devrait atterrir à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle aux environs de 3h28 du matin pour nous. Cela représente un trajet effectué en quasiment 25 heures. Rappelons que cette nouvelle ligne Nouméa à Paris via Bangkok sera opéré deux fois par semaine. Les départs se feront les mercredis et samedis depuis la Tontouta. L'actualité d'Air Calin, toujours avec la démission de Christopher Gigès du conseil d'administration d'Air Calédonie International pour dénoncer, Jean-François Baudin, les abus dans le voyage d'ouverture de la ligne Bangkok-Paris.
Le nombre d'élus dans la délégation pour l'ouverture de la ligne est tout simplement indécent au vu du contexte, écrit le membre du gouvernement sur sa page Facebook. Il relève que pendant que certains bataillent au Congrès pour dégager les crédits nécessaires à la survie de la Nouvelle-Calédonie, d'autres voyagent. Avec Isabelle Chamorro et d'autres élus, nous avons refusé l'invitation à cet événement, indique Christopher Gigès, qui ajoute que pour ces raisons, il a fait le choix de démissionner du conseil d'administration d'Air Calin pour ne pas cautionner cet abus. Dans la délégation qui participe au voyage d'ouverture de la ligne Bangkok-Paris, on note la présence notamment de deux membres du gouvernement, Gilbert Huyénon et Michael Forest.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, la nouvelle ligne Nouméa Paris via Bangkok, entièrement opérée par Air Calin, va-t-elle permettre, selon vous, le redressement et le développement de la compagnie aérienne? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 74% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS estiment utile de déclarer l'urgence climatique en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 26% à être d'un avis contraire.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Autre grand titre dans l'actualité ce mercredi, le moment qu'ils attendaient tous est enfin arrivé. Les résultats du baccalauréat étaient donnés aujourd'hui à 14h. Une masse d'élèves était réunie devant les grilles de leur lycée, au La Pérouse à Nouméa par exemple. C'est stressé, angoissé et avec en tête le souvenir bien clair des difficultés qu'ils ont rencontrées cette année, qu'ils ont pu lire la mention indiquée à droite de leur nom. Écoutez.
On est un peu stressé. Bah, c'est vrai que quand il y a eu les émeutes, on ne savait pas trop si on allait avoir notre bac, mais bon, on verra bien nos résultats. On espère avoir de bons résultats.
Je suis un petit peu stressée parce que c'est dans 15 minutes. Voilà, avec les émettes, ça a un petit peu perturbé le cours de l'année. Mais bon, on croise les doigts pour l'avoir et puis voilà, en espérant que ce soit positif, quoi.
J'ai eu mon bac avec mention bien. Bah, je suis content.
Alors, j'ai eu mention assez bien au bac, donc je suis assez content. Je m'attendais à avoir ça. Je me dis que la mention bien était pas loin, mais bon, c'était un peu compliqué de l'avoir.
Moi, j'ai été admise sans mention, mais j'ai été admise. Oui, j'avais un doute, je pensais que j'allais pas avoir le bac avec tout ce qui s'était passé, tout ça. Je me sens trop bien, je suis contente.
Un reportage signé Charlotte Coulson. Il y avait toutefois, comme chaque année, certains candidats déçus par le résultat. Peu de temps de préparation pour ces lycéens qui passent au rattrapage. La seconde session se déroule dès lundi. Un peu plus tôt dans la journée, avant que les élèves ne découvrent leur résultat au baccalauréat, le vice-recteur organisait une conférence de presse pour annoncer les taux de réussite. Une conférence conférence à laquelle vous avez assisté, Léo Fichou.
Effectivement, on a su peu après-midi que 80,9% des candidats avaient été admis, soit 13% de plus que l'an passé et 3% de plus qu'en 2021. 2021 qui, on le rappelle, était une année particulière avec la pandémie de Covid et le référendum. Les élèves avaient passé le baccalauréat comme cette année, donc on contrôle continu. Les détails de Didier Vindati, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Les premiers résultats montrent, comme vous l'avez vu, de bons taux de réussite. C'est une année tout à fait particulière et donc une session tout à fait particulière. Le recours au contrôle continu, pour nous, était la seule alternative parce que si on n'avait pas pris cette décision en juin dernier, on n'était pas certain de pouvoir maintenant, en décembre, organiser une session d'examen. L'année aurait été blanche. C'est-à-dire que les élèves auraient redoublé. Ils n'auraient pas pu poursuivre leur scolarité. Donc on a évité, grâce au contrôle continu, la catastrophe.
La catastrophe évitée donc, et on notera que les lycéens ont su s'adapter au changement. Si on regarde dans les détails, cette année, 3200 élèves ont passé leur examen du baccalauréat en contrôle continu. Et à l'issue du premier groupe, l'Académie de la Nouvelle-Calédonie compte 2595 nouveaux bacheliers, des diplômes qui ont la même valeur que ceux obtenus en métropole. On retrouve Didier Vindati, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Aujourd'hui, les élèves ont des diplômes parce qu'ils ont travaillé tout au long de l'année. Et grâce à ces diplômes acquis en contrôle continu, qui ont la même valeur que les diplômes acquis par contrôle ponctuel en métropole ou ici l'année dernière, grâce à ces diplômes, ils poursuivent logiquement leur scolarité post-bac à l'université ou en classe prépa ou en BTS. Donc ça, c'est vraiment bien. Il n'y a pas eu de grand oral, mais il y a eu des petits oraux. Et vraiment, quand je dis le diplôme acquis par contrôle continu a la même valeur que les diplômes ponctuels, je dis aussi qu'on a, en mode contrôle continu, développé chez nos élèves des aptitudes, des compétences qui sont précisément celles dont les employeurs demain auront besoin aussi.
Et cette année, 1596 élèves ont obtenu une mention, soit 61,5% des admis. Parmi eux, 210 ont même décroché la mention très bien.
Les résultats du bac 2024, un sujet sur lequel nous reviendrons en détail demain matin sur l'antenne d'RRB. En effet, le vice-recteur Didier Vindati sera notre invité du matin. Une interview à suivre en direct à 7h30 sur Radio Rythme Bleu. Il est 17h passé de 57 minutes. Une page de pub dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité. L'inquiétude à Thiot. Dès demain, un nouveau pas de franchi, les salariés de la SLN seront mis au chômage, alors que les sites miniers ont été ravagés ces derniers mois par les émeutiers. À tout de suite.
Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Un an de salaire à gagner avec Nestlé.
Jusqu'au 31 décembre prochain, tente de remporter un an de salaire en bon d'achat à dépenser dans tes enseignes préférées.
Pour jouer, achète deux produits Nestlé, écris ton nom, prénom et numéro de téléphone derrière ton ticket de caisse et glisse-le dans l'urne en magasin.
Participe en ligne sur jeunestlé.nc/salaire. Règlement du jeu disponible chez Nestlé et chez Maître Citrita.
Jeu gratuit sans obligation d'achat.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'info soir, Michael Juneski.
Les salariés de la SLN à Thiot mis au chômage. Le site a été mis en sommeil mi-octobre en raison de l'impossibilité persistante d'accéder au site minier depuis avril et aux nombreuses dégradations commises sur les installations de la SLN. Jean-François Baudin.
C'est vrai que l'industriel a été pris pour cible à de nombreuses reprises. Les sites sont bloqués depuis plus de 8 mois maintenant. Et ils ont été victimes d'intrusions répétées avec des vols de matériel. Les équipements et les infrastructures ont été pillés, dégradés et pour certains incendiés, comme les ateliers ou encore les bureaux administratifs, les convoyeurs de chargement, le laboratoire, les villas de l'employé, mais aussi des engins. Résultat, le 9 octobre, la direction a entamé un processus d'information sur cette mise en sommeil. Demain, les salariés seront licenciés. Décision qui ne passe pas pour le secrétaire général adjoint de l'USOINC, Alexis Falé-Matagia.
Nous, on n'est pas d'accord sur la proposition de protocole qui a été donnée par la direction de la SLN. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, vu que ça a été cassé, on jette tout le monde dehors. Aujourd'hui, on a une économie qui est vraiment catastrophique et ça va venir amplifier le chômage qu'on a à la CAFAT. Donc nous, d'un point de vue U5, avec les discussions, nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'État, les élus, l'industriel et les partenaires sociaux, la société civile, puissent se mettre autour de la table pour discuter du centre de mini de Thiot. Parce qu'aujourd'hui, ces salariés ont travaillé depuis des années au sein de Thiot. Ce qu'on demande, c'est peut-être prendre ces salariés-là, les mettre de manière temporaire dans les autres sites miniers, le temps de trouver une solution pour pouvoir les mettre au boulot dès que ça sera rouvert l'activité sur la mine de Thiot. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire des ruptures de contrat et les gars, allez, tata, au revoir. C'est pas possible. Nous, on ne peut pas accepter ça en tant que syndicat.
Le soin qui devrait saisir la DTE sur le sujet. La SLN emploie 230 salariés et fait également appel à 20 sous-traitants sur la commune de Thiot.
Et d'après nos informations, PRNC de son côté poursuit sa montée en puissance. Elle serait aujourd'hui à 60% de ses capacités et a pour objectif d'arriver à la production nominale d'ici dimanche. Le repreneur potentiel de Premier Resources, le groupe sud-africain Sibanye Stillwater, devrait se rendre sur site à mi-janvier pour voir l'usine du Sud fonctionner et avoir un retour sur un mois de production. Parmi les textes examinés ce matin par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie figure un projet de loi du pays relatif à la mise en place d'un jour de carence dans la fonction publique, Léo Fichou.
C'est en effet l'une des mesures qui doit permettre à la Nouvelle-Calédonie de mieux maîtriser ses dépenses de fonctionnement en cette période de crise. En métropole, pour lutter contre les absences de courte durée, une loi a réintroduit le jour de carence depuis 2018, applicable aux fonctionnaires d'État en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, lors d'un arrêt maladie ordinaire, un agent n'est rémunéré qu'à partir du deuxième jour. Le projet de loi propose donc d'appliquer cette mesure à partir du 1er janvier 2025. Le jour de carence s'appliquera à partir du troisième jour d'arrêt maladie d'un agent. Ce jour sera déduit de ses droits à congé maladie et concernera surtout les arrêts pour maladie ordinaire. Selon les études réalisées sur le sujet, cette mesure doit permettre aux collectivités de faire des économies non négligeables.
Un rendez-vous d'antenne. Quels sont les indicateurs économiques actuels permettant de mesurer l'impact de la crise générée par les émeutes et comment ont-ils évolué depuis le 13 mai. Ce sera le thème demain des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Nous verrons de quels moyens disposent les instituts spécialisés pour analyser une crise de cette ampleur. Nous serons pour cela en compagnie d'Élise Desmazures, la directrice de l'ISE, et de Fabrice Dufresne, le nouveau directeur de l'IEOM. Êtes-vous bien inscrit sur les listes électorales ? Comme chaque année, le Haut-Commissariat rappelle qu'il est important de vérifier si vous l'êtes ou non. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore inscrits, il est impératif de vous rapprocher de votre mairie de résidence avant le 31 décembre pour pouvoir voter en 2025. Une mise à jour des listes électorales doit être effectuée et les électeurs dont l'adresse ne correspond pas au domicile sont susceptibles d'être radiés. Une nouvelle visite d'une personnalité étrangère en Nouvelle-Calédonie. Après le vice-premier ministre de Nouvelle-Zélande, c'est la vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam qui arrive en fin de semaine. Au premier jour de sa visite, vendredi prochain, Li Thi Tu Hang aura une série d'entretiens successifs avec le haut-commissaire et l'ambassadrice de France pour le Pacifique, puis avec le président du gouvernement, la présidente du Congrès, le maire de Nouméa et enfin le deuxième vice-président de la province sud. Elle s'entretiendra également avec le monde économique. Samedi, elle participera à un dépôt de gerbes au quartier asiatique avant d'échanger avec la communauté vietnamienne. Un seul rendez-vous dimanche qui sera aussi son dernier jour de visite. La ministre ira à la rencontre des commerçants en baie de la Moselle.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Bouloupari, Saraméa, La Foix, Moindou, Farino, c'est le sang.
Au chapitre des transports aériens, Air Calédonie annonce d'importantes modifications de son programme de vol et ce, jusqu'à vendredi, Charlotte Coulson.
Et c'est pour faire face aux difficultés financières rencontrées depuis le 13 mai dernier que la compagnie aérienne a réduit de moitié le nombre d'appareils actifs. Sur les 4 avions de la flotte, seuls 2 ATR sont opérationnels, laissant peu de marge de manœuvre en cas d'aléa. C'est notamment le cas depuis hier, les problèmes techniques viennent perturber le programme de vol. Les passagers concernés par les annulations sont informés par SMS et email. Ils sont invités à se renseigner sur le site internet d'Air Calédonie.
Noël à l'Institut spécialisé autisme du Mont d'Or. Un événement de fin d'année se tenait aujourd'hui sur le site de l'ISA à Robinson, avec tout ce qu'il fallait pour accueillir les familles et surtout de quoi donner le sourire aux enfants et aux jeunes accompagnés au sein de l'Institut. Virginie Dubourg est la directrice de l'ISA.
Comme chaque année, avec le soutien du conseil d'administration, du conseil d'établissement, avec les représentants des parents et des professionnels, mais surtout avec le soutien de l'équipe pluridisciplinaire, tout a été confectionné par les équipes et avec le soutien de super partenaires.
Voilà, tout au long de l'année, 77 enfants, adolescents et jeunes adultes sont accompagnés au sein de l'ISA et encadrés par 46 professionnels à travers différents champs disciplinaires. Aujourd'hui, près de 200 personnes sont présentes pour ce Noël dans les locaux de l'ISA. Les parents, avant tout, heureux de faire honneur au travail mené par les équipes éducatives, pédagogiques et thérapeutiques tout au long de l'année.
Je pensais qu'ils n'allaient pas le faire cette année, mais bon, ils ont réussi à maintenir ce que les enfants ils attendent déjà d'eux. On est content, les enfants ils s'épanouissent, voilà, ils sont très heureux. Belle journée.
Oui, belle journée. Contente pour les enfants, ça les fait sortir un peu du cocon des émeutes quand on a passé le cap, ben, les étoiles dans les yeux, quoi, on va dire, pour terminer l'année.
Pour mon fils surtout, c'est pas tout le temps. Je suis très content pour lui, surtout. Je suis très content de voir comment il a évolué dans cet institut. Je voudrais remercier, profiter de l'occasion de remercier tout l'institut pour le travail et les efforts fournis durant toute l'année.
Je suis heureux avec tous les enfants autistes et les encourage.
L'ancien maire du Mont-d'Or, membre du conseil d'administration de l'Institut spécialisé autisme Éric Gay, est lui-même impliqué de longue date dans ce projet. Il a participé aux festivités en endossant l'habit de Père Noël.
Quand ce projet a été initié, on ne savait pas trop, en fin de compte, où on allait, si ce n'est un premier objectif qui était celui de créer du soulagement chez les parents. Ce projet a pris de l'ampleur, est devenu hyper professionnel, très pédagogique, et puis quand on voit depuis 10 ans maintenant, tous les enfants qui sont passés par ici et les énormes progrès qu'ils ont pu réaliser, ceci c'est grâce au personnel, il faut le dire, et au personnel encadrant et de service, quoi, qui fait un énorme travail auprès des enfants.
Et les enfants qui ont eu la chance de recevoir des cadeaux offerts par de généreux donateurs, dont une partie des dons collectés à travers l'opération Au cœur de Noël sur RRB.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
L'opération solidaire avec Radio Rythme Bleu, lancée depuis la semaine dernière, pour que Noël soit une fête pour tous. La générosité des Calédoniens est au rendez-vous, avant tout pour offrir de beaux cadeaux aux enfants dans le besoin. Vous pouvez continuer de passer, quand vous le souhaitez, à l'image, encore aujourd'hui, de Mélissa, venue les bras chargés de dons préparés par ses propres enfants. Écoutez.
Mes enfants, ça leur tenait à cœur de donner des peluches dont ils ne se servent plus, pour des enfants qui n'en ont pas les moyens ou qui en ont besoin. Je leur ai demandé de faire le tri et ils l'ont fait avec beaucoup d'amour et ils ont choisi de se séparer de certaines de leurs peluches. J'ai mon grand garçon qui a 11 ans, le plus petit réalise un petit peu moins, mais le grand, c'était important de faire plaisir à des personnes qui sont dans le besoin. Là, on a commencé par les peluches, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait encore le tri des jouets, donc on va sûrement revenir avec les enfants à la radio pour faire un autre don.
Et voilà pour ces témoignages, nos partenaires que sont la Croix-Rouge, le Secours catholique, la Société Saint-Vincent de Paul et la Table ronde française se chargeront de distribuer tous ces dons. Vous pouvez continuer de venir à notre rencontre tous les jours de 7h30 à 19h pour faire en sorte que Noël soit une fête pour tous.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Marais, c'est le 101.5.
La situation du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie alerte nos auditeurs. L'un d'eux a appelé ce matin dans l'émission « Vous avez un avis » pour déplorer notamment la suppression probable de plusieurs disciplines, dont la classe de chant lyrique. On revoit les détails avec vous, Charlotte Coulson.
Un auditeur, en effet, qui craignait que cette baisse n'entraîne une perte du titre de conservatoire pour l'établissement. À la suite de cet appel, Pascale Donigian, la directrice du conservatoire, a tenu à rassurer et à apporter quelques précisions.
Les situations financières de l'établissement est, comme pour beaucoup, critique, complexe. Et il s'agit pour nous de prévoir pour 2025 un budget resserré. Nous avons donc effectivement envisagé de suspendre pour l'année 2025 l'enseignement du chant lyrique parce que cette classe attire aujourd'hui une quinzaine d'élèves et non pas un nombre important comme on peut l'imaginer. Il y a pour nous l'intérêt de coller au plus près de ce que la jeunesse aujourd'hui a besoin et de ce qu'elle demande. Si elle demande d'apprendre à danser des danses kanak, eh bien c'est un plaisir d'accueillir pour nous une troupe. Et c'est aussi un plaisir d'ouvrir l'année prochaine un ensemble lyrique, un chœur lyrique. Donc nous n'allons pas abandonner les chanteurs lyriques, au contraire. Je suis très, très confiante dans l'avenir du conservatoire, même si nous devons, pendant un an ou deux, faire exception à certaines disciplines et que malheureusement on doit tous faire preuve de compréhension. Nous n'avons pas le choix.
Et concernant la dénomination de conservatoire de musique et de danse, Pascal Donigan rappelle que, de par sa situation isolée, la Nouvelle-Calédonie n'est pas soumise au même contrôle que les autres écoles de France. Pas de risque donc de perdre son titre, même en cas de suppression de certaines classes. L'établissement pourrait même être renommé Conservatoire des Arts l'année prochaine.
On parle environnement à présent. La faune et la flore calédonienne menacées. Certaines espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie ont rejoint la liste rouge des espèces menacées en France, Léo Fichot.
Cette liste est le résultat d'une étude conduite sur près de 10 ans par de nombreuses institutions et associations environnementales, dont l'association Endemia en Nouvelle-Calédonie. 69 espèces de lézards, dont les geckos, et 643 espèces de plantes, comme des fougères ou des orchidées, se sont révélées menacées de disparition sur le territoire, ce qui représente tout de même 2/3 des lézards et 40% de la flore calédonienne. Avec ces espèces uniques au monde, il était donc primordial de les inscrire sur cette liste pour contribuer à leur protection, explique Aurélie Fourdrin, directrice de l'association Endemia et coordinatrice de l'autorité Liste Rouge.
Ça leur donne de la visibilité au niveau mondial. Et puis également, tout ce travail d'évaluation, en fait, il est réalisé avec un groupe d'experts de niveau chercheurs, hein, même si ce sont des naturalistes passionnés, ce sont des gens qui ont vraiment une compétence énorme sur ces domaines. Donc en fait, les résultats issus des travaux d'évaluation sont vraiment d'un niveau scientifique. Donc ce qui permet derrière, par exemple, aux collectivités, donc aux provinces, entre autres, de se servir de nos résultats d'évaluation liste rouge pour inscrire ces espèces-là sur les listes d'espèces protégées dans les codes de l'environnement. Donc c'est vraiment un travail qui est essentiel. Ça permet aussi à des gestionnaires d'espèces d'air protégées de prioriser les espèces à protéger en priorité, de s'appuyer sur une base solide et scientifique en fait derrière pour toutes les personnes qui travaillent dans la conservation et la restauration.
Le bilan dressé a permis d'identifier plusieurs menaces croissantes qui pèsent sur cette biodiversité comme l'urbanisme, l'agriculture et le tourisme, mais pas uniquement, souligne Aurélie Fourdrin.
La menace principale, c'est le feu, malheureusement. Hein. On sait que c'est une horreur, le feu, en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vrai que les 3/4 des espèces sont menacées par les incendies. Malheureusement, donc, les évaluations depuis 2014 nous montrent pas d'amélioration de ce côté-là. Hein. On est toujours sur 3/4 des espèces qui sont menacées. Et puis ensuite viennent les mines, surprise également, hein, on connaît tous leur impact. Et puis les espèces envahissantes, principalement les cerfs pour la flore, et puis d'autres espèces comme éventuellement les fourmis électriques ou les chats retournés à l'état sauvage pour les lézards.
Et si la faune endémique à la Calédonie a été entièrement répertoriée par l'association, ce n'est pas encore le cas de la flore locale. Endemia estime être proche des 70% sur les 3500 espèces de plantes qui peuplent le territoire. D'autres espèces viendront donc très certainement rejoindre cette liste rouge dans les prochaines années.
Il est 18h12, une dernière page de pub avant de voir le sport et la météo.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance, choisissez les ambulances Saint-Jacques 24h sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27. RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Soir et c'est du sport, Michael Juneski.
Et on parle natation, puisque c'est ce soir que Maxime Grousset entre en piste au championnat du monde en petit bassin à Budapest, Léo Fichot.
Le Calédonien sera en l'absence de Léon Marchand qui a préféré faire l'impasse sur la compétition, l'une des plus grandes chances de médaille française. Maxime Grousset sera aligné dès ce soir dans la 11e série du 100 mètres nage libre. Il sera au couloir numéro 4 et s'élancera à 19h48. En cas de qualification, ce qu'on espère bien évidemment pour le Calédonien, le médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris devra rester concentré jusqu'à 4h la nuit prochaine, heure à laquelle il participera à la demi-finale. La finale du 100 mètres nage libre aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Mais avant ça, le sextuple champion de France en novembre sera engagé sur le 50 mètres nage libre et sur le 100 mètres papillon.
Et puis un mot de football, Tigasport connaît ses adversaires pour la prochaine Ligue des champions d'Océanie.
Premier au classement de la Super League au moment de l'arrêt des compétitions, Tigasport est donc le représentant calédonien en Haut-Ligue. Le tirage au sort avait lieu ce matin et Gigasport est tombé dans une poule relevée, très relevée même au programme. Le représentant de la Nouvelle-Zélande qui devrait être Auckland City, triple tenant du titre. Le représentant tahitien qui devrait être l'AS Pirae, champion de Tahiti cette année. Et enfin, un représentant fidjien qui n'a pas encore été dévoilé. Les deux meilleures équipes de la poule seront qualifiées pour les demi-finales. La O-League 2025 va finalement se dérouler aux îles Salomon à Honiara du 30 mars au 13 avril prochain.
Il est 18h passé de 14 minutes, l'heure de voir les couleurs du ciel.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les détails de cette météo 7 avec vous, Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Michael. Alors cette nuit en soirée sur la côte ouest, de bonnes averses se produiront encore, puis les éclaircies finiront par l'emporter. Sur les autres régions, les nuages l'emporteront. Sur l'est, Belep et le nord des Loyautés, ils s'accompagneront par moments d'averses faibles à modérées. Sur l'ouest, à l'abri de la chaîne, le vent sera le plus souvent faible. Ailleurs, il soufflera d'est à nord-est entre 5 et 10 nœuds, localement 10 à 15 nœuds sur le sud des Loyautés et près des pointe de la Grande Terre. Les températures minimales varieront de 22 à 24 degrés sur l'ouest et de 24 à 26 degrés ailleurs. Demain matin, sur le sud-ouest et l'île des Pins, des éclaircies seront possibles. Ailleurs, les nuages domineront. Sur l'est et le nord et le nord des Loyautés, ils déposeront des averses qui pourront déborder en fin de matinée sur le nord-ouest. Sur l'ouest, le vent sera faible en début de journée, puis des brises de secteur sud-est se mettront en place entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, le vent d'est-nord-est est prévu entre 5 et 10 nœuds, localement entre 10 et 15 nœuds sur la pointe sud et l'île des Pins, la pointe nord et Belep, Michael.